Quelque part au Moyen-Orient, perdu dans les entrailles des terres et des sables, oublié de la plupart des hommes, dorment 3000 ans d'histoire. Bienvenue aux Antiquités Orientales, l'émission qui vous emmène sur les traces des grandes civilisations du Moyen-Orient, un jeudi par mois sur Radio Campus Paris 93.9 FM, à la découverte de l'histoire.
Dans ce sixième épisode des Antiquités orientales, nous partons au cœur des hauts plateaux de l'Anatolie, cette région que recouvre l'actuelle Turquie, où naquit un royaume qui étendit ses frontières jusqu'au Liban, à quelques 900 km de sa capitale. Aujourd'hui, nous explorerons le rapport qu'entretiennent les Hittites avec le monde divin. Plus précisément, c'est au travers d'un des éléments de leur système religieux que nous pourrons prendre compte de l'extrême richesse de cette civilisation. Alors, si vous le permettez, j'aimerais vous emmener avec moi honorer les dieux du pays Hittite. La première question à laquelle il nous faudra essayer de répondre ici, c'est « Qui sont les Hittites ?» On appelle Hittites le royaume multiculturel ayant émergé en Anatolie, la région que recouvre la Turquie actuelle, entre 1650 et 1200 environ avant Jésus-Christ. Avant le début du XXe siècle, les seules informations que nous avions sur eux provenaient de quelques passages de la Bible, selon lesquels les Hittites, comme elle les appelle, seraient une vague tribu ayant jadis habité les montagnes de la Syrie, issue d'un certain Heth, descendant de Noé. Oui, sauf que la découverte de la capitale des Hittites en 1910 par un archéologue allemand nous a montré que les rédacteurs de la Bible, ayant composé leur récit plusieurs centaines d'années après la fin de l'Empire Hittite, en avaient un souvenir très lointain et largement déformé par les âges. On s'est donc vite rendu compte que les Hittites étaient loin d'être une tribu perdue dans les montagnes de la Syrie, mais plutôt un royaume puissant qui alla même jusqu'à rivaliser avec l'Égypte de Ramsès II, et que pour couronner le tout, ils ne se sont même jamais appelés Hittites. En réalité, pour désigner leur pays en tant qu'entité politique et territoriale, ils parlaient plutôt de pays de Hatti. Mais comme je l'ai dit plus tôt, la Bible était la seule source que nous disposions pour parler des Hittites, donc même si le terme était complètement inapproprié pour les désigner, la recherche l'a gardé par tradition. Si vous avez bonne mémoire, j'ai dit en tout début d'introduction que le royaume hittite était multiculturel. Et c'est peu dire, puisque la question est très complexe, mais pas de panique, je vais essayer de vous résumer tout ça simplement, parce que c'est fondamental pour comprendre la culture et la religion de l'Empire hittite. Alors, imaginez un millefeuille. Au tout début, alors même que le royaume hittite n'existait pas encore, l'Anatolie était morcelée entre plusieurs petits états qui étaient tous, pour faire simple, de culture Hatti. Une culture dont on sait très peu de choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient leur propre langue, leurs propres coutumes et leur propre panthéon, c'est-à-dire l'ensemble de dieux qu'ils vénèrent. Donc première couche, dans le millefeuille, c'est la couche Hatti. Pendant cette période, ces états Hatti commerçaient avec des marchands assyriens qui faisaient la route depuis la Syrie du Nord jusqu'en Turquie actuelle pour échanger des produits majoritairement textiles contre des ressources comme l'argent et l'étain qui abondaient en Turquie. Seulement, ces marchands assyriens n'ont pas fait que commercer. Ils ont fini par s'installer en Anatolie, d'abord comme une communauté relativement fermée, mais qui s'est progressivement mélangée aux populations locales, avec des mariages, tout ça, tout ça. Donc au niveau religieux, ce mélange a une conséquence. Quand les Assyriens se sont installés en Anatolie, ils ont aussi ramené leurs dieux avec eux. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des dieux, parfois assyriens, qui sont attestés en Anatolie. Deuxième couche, donc. Plus tard, le souverain du royaume de Nessa, un des petits royaumes Hatti qui morcelle l'Anatolie, a réussi à tous les unifier. C'est à ce moment-là que naît le royaume Hittite et que s'ajoutent, pour faire très simple, deux nouvelles couches. Celle de la culture Nésite, originaire de la ville de Nessa, couche qu'on appelle communément Hittite aussi, et une autre couche culturelle dite Louvite, qui sont donc deux cultures cousines, et ces deux cultures vont s'imposer en Anatolie, avec, encore une fois, dieux, coutumes et langues spécifiques. Enfin, quelques siècles passent avant qu'une nouvelle culture déjà très présente dans une grande partie du Proche-Orient ne vienne recouvrir le millefeuille culturel et religieux du royaume hittite jusqu'à sa fin, c'est la culture Hourrite. Et donc c'est pour cette raison qu'en étudiant le culte des divinités hittites, on voit en réalité qu'il transpire vraiment de toute cette histoire culturelle, de tous ces mélanges qui se sont produits pendant des siècles jusqu'à la fin du royaume. Ils n'ont eu donc aucun problème à vénérer Shaushka, divinité hourrite de l'amour et de la guerre, aux côtés de la déesse typiquement hittite du soleil, en même temps qu'ils font une offrande à une divinité de la chasse et de la nature sauvage, vestige très ancien de la culture Hatti, puis faire juste après une prière à un dieu d'orage au nom Louvite, sans que cela ne pose aucun problème à personne. « Maintenant qu'on a pu répondre à cette question, il va nous falloir parler de la relation qu'ont les Hittites aux dieux. Les dieux du pays de Hatti sont légion. Les Hittites se vantent même dans les textes de vénérer 1000 dieux, et ce n'est pas une si grande exagération. À la fin des années 40, on connaissait déjà plus de 600 divinités différentes, et même si personne n'a fait le décompte aujourd'hui, et je le comprends tout à fait, ce serait traumatisant, on doit être à beaucoup, beaucoup plus. Et tout ce beau monde, alors, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, qui mieux que les Hittites pour vous l'expliquer? Parmi l'immense masse de textes qui décrivent le culte des divinités, nous en avons retrouvé un en particulier qui décrit mot pour mot la relation qu'ont les Hittites avec leurs divinités. Voici donc ce que ce fameux texte dit. Est-ce que l'esprit d'un être humain et d'une divinité sont différents? Non. Lorsqu'un serviteur est présent devant son maître, il s'est baigné, il a revêtu des habits propres, puis on lui donne à manger et à boire. Du fait que le maître mange et boit, son esprit est détendu. Mais si le serviteur met en colère son maître, alors soit on le tue, soit on mutile son nez, ses yeux, ses oreilles, ou bien on se saisit de lui ou de son épouse, ses enfants, sa famille, etc. Si quelque personne met en colère l'esprit d'une divinité, alors elle se vengera sur lui, son épouse, ses enfants, ses frères, ses serviteurs, ses servantes, ses bovins, ses moutons, son grain, tout. Fin de citation. L'idée derrière cela, c'est que les Hittites calquaient la relation entre humain et divin sur la relation maître-serviteur qui existait déjà dans leur société. Les humains sont donc au service des dieux, et comme les Hittites l'ont si bien expliqué, au même titre que lorsqu'un serviteur met en colère son maître, ce n'est pas uniquement lui qui en paye le prix, mais l'entièreté du groupe qui lui est rattaché. Quand un humain met en colère une divinité, c'est donc toute la société hittite qui est en danger. Et donc, quand on comprend ça, on comprend complètement pourquoi l'écrasante majorité des 30 000 tablettes de l'époque hittite qui nous sont parvenues sont des textes qui sont en lien avec le culte des divinités. Parce que justement, ce que les Hittites viennent de vous décrire à l'instant n'est autre que ce que l'on appelle un culte. Le culte d'une divinité, c'est donc vouer des gens à son service, lui donner à manger, à boire, via des sacrifices, prendre soin d'elle en la lavant et en l'habillant, etc. Et parmi ces activités, il y en a une en particulier qui va occuper notre attention dans cet épisode, parce qu'elle rassemble toutes ces activités au même moment et au même endroit, parfois même avec quelques petites anecdotes croustillantes, c'est la fête. Non, pas celle-là. Les fêtes, chez les Hittites, il y en a des petites, des grandes, des longues, des courtes, des journalières, des mensuelles, des annuelles, au printemps, en automne, en hiver, bref, chez les Hittites, la fête, c'est une véritable institution. Mais la fête n'est pas tout à fait la fête telle qu'on la conçoit nous aujourd'hui. Les fêtes qui nous sont rapportées par les textes hittites sont des fêtes cultuelles, elles sont donc organisées en l'honneur des dieux. Certaines sont faites... T'as compris? C'est parce que c'est fête. Donc certaines sont faites pour marquer des événements de l'année, on en a une pour le nouvel an par exemple, ou une pour le printemps. Mais d'autres sont organisées dans des contextes plus spécifiques. Ça peut être pour célébrer le retour du roi d'une campagne militaire par exemple, mais on a aussi des fêtes qui sont organisées dans des contextes d'urgence, comme des épidémies. Pas sûr que ça aurait marché en 2020, ça. Mais alors, la question que tout le monde doit se poser, c'est comment ça se passe une fête chez les Hittites? Qui en sont ces acteurs, ces destinataires, et pour quelles raisons les fêter? Quels intérêts ont-elles pour le royaume hittite? Et pour répondre à toutes ces questions, il va nous falloir plonger dans l'ambiance d'une fête hittite, au cœur de la capitale du royaume, Hattusa.
Vous écoutez bien les Antiquités Orientales, un jeudi par mois à 18h, sur Radio Campus Paris 93.9 FM, à la découverte de l'histoire.
Tout commence devant le palais de Hattusa. La foule attend. Elle piétine, murmure, lance des regards impatients, quand soudain le personnage principal de la fête fait son apparition. Tout de blanc vêtu, le roi Hittite apparaît orné de bijoux en or pour occuper le trône vide qui siège au-dessus de l'assemblée. Après une obscure cérémonie dans laquelle on lui présente une lance de bronze, il descend de son trône pour monter dans un char tiré par des bœufs dont les cornes, les joues et les fronts sont plaqués d'or. Le souverain ouvre la marche de la procession qui va traverser toute la capitale. Il est suivi par une dizaine de danseurs qui joignent leur corps, parfois nus, à la mélodie des musiciens avant de s'arrêter devant une porte. Là, plusieurs prêtres de la divinité Ser, une divinité de la nature sauvage et de la chasse, prennent la tête du cortège. L'un d'eux tient dans sa main une coupe de vin en argent qui ressemble à un cerf, mais après quelques gestes et paroles rituelles, il finit par la déverser sur le sol comme offrande à la divinité. Le cortège poursuit sa route, s'augmentant de nouveaux arrivants, des statues d'animaux. Forgées dans des métaux précieux pour certaines, taillées dans le lapis-lazuli pour les autres, les statues de lions, de panthères, de sangliers, de cerfs ou d'ours paradent dans la ville aux yeux de tous, juchés sur un chat. À en juger par la qualité de leurs favoris hittites, les animaux d'argent et d'or devaient afficher des expressions fines et marquées, révélant la puissance féroce de ces animaux chassés par les hittites. La procession traverse bientôt l'une des portes de la ville quand un groupe fait résonner dans les rues de Hattusa un chant en langue hati, une langue d'un passé lointain et prestigieux, fortement associé au culte des divinités Hati, de la nature et de la chasse. C'est ainsi que la procession poursuit sa route, chantant et dansant. Halki, la déesse du grain et de la fertilité, reçoit du vin en présence de la reine. Le dieu de l'orage, ainsi que ses taureaux sacrés, Sheri et Huri, se voient accorder du pain, du fromage et de quoi boire. Puis c'est au tour du dieu de la guerre, de la déesse soleil, bref, c'est toute l'assemblée divine qui est honorée pendant la fête avec un florilège d'actes rituels. On fait brûler des feux, on place des objets sur ou à côté des autres, on récite des prières et plus encore, on semble même jouer des scènes. Dans l'une d'elles notamment, un groupe de jeunes hommes est séparé en deux. Quand les uns s'apprêtent à incarner les hommes du pays hittite, les autres prennent le rôle des méchants, les hommes de Massa, une contrée lointaine et insoumise au royaume hittite. Les jeunes hommes vont devoir se battre entre eux, mais l'opposition est volontairement déséquilibrée. Le groupe, qui joue l'armée de Massa, devra combattre des épées et des lances de bronze avec de simples roseaux. Quelques passes d'armes plus tard, passes d'armes peut-être chorégraphiées, grande surprise, le groupe de l'armée hittite sort victorieux. Et à la suite de cela, un homme du groupe de Massa est fictivement fait prisonnier et consacré à une divinité. Une autre mise en scène rituelle remarquable prend place dans le temple d'une divinité. Sous les yeux de tous les plus grands personnages du royaume, militaires, administrateurs, prêtres et membres de la famille royale, rien de moins que le roi en personne s'agenouille trois fois devant la divinité. Jusque-là, rien de très anormal. Un prêtre s'avance vers lui jusqu'à faire face à son dos. Il y a un petit silence. Et puis, soudain, il agrippe fermement un bâton avant d'asséner sur le roi des coups. Un tel geste vaudrait, en temps normal, la peine de mort à coup sûr. Mais tout ceci fait partie de la dramaturgie du rituel. Le souverain finit même par embrasser l'instrument de sa douleur avant de s'asseoir et de laisser son bourreau nourrir la divinité. À vrai dire, je dois vous avouer que je vous ai menti. Enfin, pas tout à fait menti, mais disons plutôt que le récit que je viens de vous faire sur la fête cultuelle était plus un mélange de plusieurs fêtes au lieu d'une seule, authentique. Mais rassurez-vous, je n'ai pas trahi votre confiance pour rien. La vérité sur les fêtes cultuelles hittites, c'est qu'elles sont assez mal connues. La faute a trois facteurs. Le premier, c'est que les textes qui nous racontent ces fêtes cultuelles sont très longs et s'étalent souvent sur une dizaine de tablettes. Or, plus il y a de tablettes à trouver, plus il y a de risques qu'on ne les retrouve pas ou qu'on les retrouve dans des états pas possibles, et c'est malheureusement souvent le cas. Le deuxième facteur est lié à la compréhension même du texte. En réalité, il faut bien comprendre que les tablettes que l'on a retrouvées sont certes relatives au culte, mais elles sont surtout des textes administratifs, c'est-à-dire qu'ils décrivent le déroulé des événements d'une fête de façon très factuelle, de manière à pouvoir la consulter comme un manuel lorsqu'il fallait en organiser une. Donc d'un côté, c'est super, parce que ça nous donne un petit coup de projecteur sur beaucoup d'éléments de la religion hittite qu'on n'aurait pas autrement, mais de l'autre, c'est très frustrant, parce que les textes sont bourrés de termes techniques intraduisibles, et quand on sait bien les traduire, on ne les comprend pas. Pour exemple, on a des gens dans des fêtes cultuelles qui sont appelés des hommes-chiens, des hommes-tables, on a aussi des endroits dans Hattusa qui sont cités, mais qu'on ne sait pas situer sur le site archéologique. Donc même si on comprend techniquement le texte, on ne comprend pas forcément la fonction des endroits ou des gens qui sont cités dedans. Le troisième et dernier facteur, c'est un petit peu la question à un million.
La question que je vous pose vaut 1 million d'euros.
Qui concerne exactement nos textes de fêtes cultuelles? Un petit peu de contexte, pas de panique. Il se trouve que l'énorme majorité des textes que les Hittites nous ont laissés ont été retrouvés soit dans des temples, soit dans des palais, donc des lieux de prestige. La conséquence de cela, c'est que les textes qui nous permettent de comprendre la religion hittite ne nous la montrent que par le prisme d'une élite culturelle, politique et surtout sociale. En clair, nos textes ne parlent quasiment que des gens du pouvoir. Donc forcément, avec la conscience de ce problème, les historiens se questionnent. Est-ce que ces fêtes n'étaient fêtées que par les gens de l'aristocratie, ou est-ce qu'elles étaient aussi des rites et des croyances partagées par le reste de la population, voire même partagées en même temps et avec cette population? La question est encore ouverte, mais il semblerait qu'aujourd'hui les historiens soient plus en faveur de l'idée selon laquelle ces faits ne sont partagés que par les élus de la société hittite, et peut-être pas avec le reste de la population. Pour résumer, ces fêtes cultuelles soulèvent beaucoup d'interrogations et beaucoup reste à découvrir sur ces événements qui sont d'une richesse assez extraordinaire.
Vous écoutez bien les Antiquités orientales, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM à la découverte de l'histoire.
Et donc justement, je vous propose de décortiquer un petit peu cette richesse à partir de ce que je vous ai raconté. Je vous l'ai dit, les fêtes culturelles chez les Hittites, c'est une institution. Il y en a à toutes les sauces, salade tomate-oignon, autant quand ça va bien que dans des contextes d'urgence. Mais si cet élément de la vie religieuse est si présent, c'est bien parce que la société hittite y trouve un bénéfice, que ce soit consciemment ou non. Quand on se demande ce qu'est le principe d'une fête, c'est une, les trois quarts du temps c'est plusieurs quand même, personnes qui se réunissent autour d'un même événement, au même moment, au même endroit, et là nous touchons à l'utilité première de la fête, l'identité. Je m'explique. Lorsque nous fêtons le 14 juillet, c'est tout le peuple français qui se réunit autour d'un même événement, celui qui commémore la fête de la Fédération, et pas de la prise de la Bastille, de 1790. Au-delà de la commémoration de cet événement, il s'unit autour du symbole des valeurs véhiculées par la fête. Car le 14 juillet 1790, c'est le jour qui voit Louis XVI jurer devant la nation française tout entière le respect de la Constitution. Pour nos Hittites, célébrer n'importe quelle fête, c'est aussi créer une identité commune qui s'articule autour de valeurs particulières, celles du culte des dieux, de leur respect, de la reconnaissance des lieux de pouvoir politique ou religieux et des personnes qui leur sont rattachées. C'est en partie pour cette raison que la fête est un cortège itinérant qui part souvent du palais et s'arrête devant les lieux de culte pour faire des offrandes à une divinité par le biais du prêtre qui lui est rattaché. On fabrique aussi une identité avec des incantations ou des chants récités dans des langues spécifiques. Dans notre exemple, c'était les chants en hati. Et en faisant cela, les Hittites se font les héritiers de traditions culturelles, parfois partiellement perdues ou oubliées, mais qui reprennent vie pendant quelques moments lors de la fête cultuelle. Ce n'est pas la meilleure comparaison de la Terre, mais c'est un peu comme si on disait la messe en latin dans les églises, ce qui se faisait encore il n'y a pas si longtemps. Alors même que très peu de gens le comprennent à l'oral aujourd'hui, et que notre culture, bien que profondément enracinée dans la culture latine, n'a plus grand-chose à voir avec elle. Que ce soit par les chants en hati ou avec la messe en latin, la culture du royaume hittite comme la nôtre essaye de se rattacher à une tradition plus ancienne, avec qui elle partage encore un héritage culturel, même s'il est lointain. Il s'agit aussi de se réunir sous l'autorité d'un même souverain, raison pour laquelle le roi est présent presque tout le temps dans les fêtes cultuelles. Aussi, lors de ces événements qui peuvent durer plusieurs semaines, voire un mois entier, le royaume mobilisait énormément de ressources. D'abord, les différentes offrandes de nourriture vont de la simple poignée de farine aux viandes les plus grasses et donc prestigieuses, en passant par différentes huiles végétales, des types de pain, de brioche et de gâteaux à n'en plus finir, des fruits ou même des plats à base de légumineuses, du poisson, des fromages, du miel, etc. J'en oublie certainement, tellement la liste est longue. Avec toute cette variété de produits, on pourrait penser que les Hittites font tout de même intervenir indirectement dans les fêtes la partie de la société qui fabrique ces produits. Ensuite, les fêtes intègrent parfois, ci et là, des corps de métiers artisanaux comme des forgerons ou des orfèvres par exemple. Encore une fois, indirectement, c'est toute la société hittite qui est représentée dans ces fêtes et dans les offrandes données aux dieux, et c'était aussi possiblement un facteur identitaire important. Il y a une autre facette de la fête, qui cette fois est justement utilisée, probablement consciemment, par le souverain hittite lui-même. On l'a dit, il est le personnage le plus récurrent des fêtes culturelles, et la raison est simple. Pour asseoir son pouvoir, le roi hittite doit se montrer. Lorsque le souverain se met au centre de l'attention, comme lorsque tout le monde l'attend devant son palais par exemple, il se réaffirme comme le personnage central de l'État auprès de tous ceux qui assistent à la fête. C'est ce que j'ai mentionné dans mon récit, mais il faut bien comprendre qu'un tel événement réunit toute l'aristocratie du royaume. Fonctionnaires, militaires, administrateurs et religieux, tous ceux qui ont du pouvoir assistent celui qui en a le plus, celui qui décide et qui mène symboliquement le cortège du royaume. Lorsque je dis « tous », c'est aussi à prendre au sens large, car par les nombreuses offrandes que son royaume pourvoit aux divinités, le souverain se réaffirme comme leur serviteur, disons, spécial, car chez les Hittites, le roi est toujours choisi et soutenu par les dieux, sans quoi il n'est pas légitime. Cette démonstration et réaffirmation du pouvoir royal durant les fêtes s'exporte lorsque le roi quitte la capitale pour voyager entre les villes du cœur du royaume et fêter les dieux en présence de l'aristocratie locale. Les fêtes, et plus largement le culte de divinités d'origine étrangère, servent aussi pour le roi à affirmer son autorité sur des régions lointaines annexées par le royaume hittite. C'est le cas par exemple de la région d'Alep, au nord de la Syrie actuelle. Bien loin de Hattusa, qui se situe en plein cœur de la Turquie d'aujourd'hui, la ville d'Alep était, il y a des millénaires, une cité puissante et respectée dans tout le Proche-Orient. Très tôt dans leur histoire, les Hittites ont réussi à piller la ville sans pour autant la garder dans leur territoire. Dans ce pillage, l'armée de Hattusa a récupéré en butin des divinités originaires d'Alep, dont notamment leur dieu de l'orage qu'ils ont installé dans leur capitale et vénéré. Quelques siècles plus tard, un nouveau roi hittite réussit à conquérir la ville d'Alep, mais cette fois, il décide de conserver le territoire dans le royaume. Et, comme par hasard, c'est à peu près au même moment que le culte du dieu de l'orage d'Alep prend une grande importance dans la religion hittite, si bien qu'il va finir par devenir le dieu le plus puissant du panthéon. Alors, lorsque les Hittites donnent des fêtes cultuelles en l'honneur de ce dieu de l'orage d'Alep, ils ne manquent pas d'inviter les diplomates d'Alep pour qu'ils participent aux offrandes. La rhétorique est donc assez simple et limpide. Regardez, nous vénérons tous les deux les mêmes dieux, nous sommes comme vous, donc ça vous donne une bonne raison de ne pas vous rebeller puisqu'on est pareil. Enfin, la dernière utilité des fêtes cultuelles dont il faut parler, c'est son caractère transgressif. La fête a ce pouvoir de créer un lieu et une situation, tous deux bien délimités dans l'espace et le temps, où l'on met en scène, de façon théâtralisée, la transgression des règles. Concrètement, la fête est le seul endroit où s'expriment les interdits d'une société. C'est ce qu'on voit très bien dans la scène où le roi se fait battre rituellement, ou encore quand les chanteurs défilent parfois nus dans les cortèges. Ces comportements sont les témoins qu'à un moment donné, dans toute fête humaine, y compris les nôtres, il y a le besoin de mettre en scène la transgression de codes sociaux. J'ai bien parlé de mise en scène, ou d'une façon théâtralisée, de transgresser, car on n'outrepasse pas un interdit quelconque, juste pour la beauté du geste. Au contraire, c'est quelque chose de tout à fait maîtrisé. Cela peut paraître assez abstrait au début, mais en réalité, c'est plutôt simple à comprendre. Théâtraliser la transgression de l'interdit dans une fête, c'est justement le faire exister, cet interdit. Quand le roi est battu par un prêtre devant tous les plus hauts fonctionnaires du royaume hittite, c'est déjà une violence pour le moins maîtrisée. Les textes ne le précisent pas vraiment, mais il paraît peu probable qu'on va vraiment massacrer le roi à coups de bâton, alors que c'est le personnage central de la société hittite. Par contre, en frappant plus ou moins fort donc son propre souverain, le prêtre fait émerger aux yeux de tous cette règle tacite de la société hittite qui dit « pas touche au roi ». Car il faut bien comprendre que, normalement, être en présence même du roi dans la société hittite, c'est possible, mais pour un très petit nombre d'individus. Donc de là à le toucher et le frapper, là c'est encore pire, personne ne peut. Comme pour achever le renversement symbolique du pouvoir, le roi embrasse ensuite le bâton qu'il a frappé, toujours dans cette idée d'une violence théâtralisée. Les interdits comme celui-ci qui sont transgressés dans les fêtes hittites sont probablement légion, et permettent donc de comprendre exactement quelles sont les valeurs les plus importantes de cette société. Par exemple, nous avons retrouvé un vase très ancien, qui représente probablement une fête cultuelle, où l'on voit littéralement deux personnes qui font l'amour, peut-être en public, alors même que nous savons par le biais de textes de loi à quel point la sexualité est confinée à la pudeur chez les hittites. Telle est donc l'une des vocations de la fête, faire exister les interdits sociaux en les transgressant. La théâtralisation de la fête sert aussi la politique des rois hittites, à l'image du combat rituel qui oppose fictivement l'armée hittite à l'armée de Massa. Cette dernière était une région à l'ouest de l'Anatolie qui n'a jamais été occupée par les hittites et qui devait certainement poser des problèmes au royaume. La théâtralisation de ce combat avec le rapport déséquilibré qui le régit permet donc aux Hittites de projeter une victoire sans résistance sur cette population insoumise, ce qui relève de la propagande idéologique tout à fait classique des États de cette époque. La fête cultuelle constitue donc pour les Hittites un moment de cohésion intense, au moins pour la frange la plus aisée de la population, est un moment qui permet à l'identité culturelle du royaume de s'affirmer. Mais là où la fête hittite brille le plus, c'est dans toute la richesse culturelle qu'elle contient. Dans un monde où religion et politique sont profondément imbriquées, cette même richesse culturelle qui caractérise les fêtes hittites a pu être politiquement réemployée par les souverains du royaume, qui y voyaient là l'occasion d'affirmer leur légitimité à régner sur des régions annexées en faisant participer leurs représentants aux offrandes. Enfin, la fête constitue aussi le moyen de réunir une société autant autour de valeurs communes que d'interdits. Durant les festivités, ces mêmes interdits voient leur transgression volontairement mise en scène dans l'espace, le temps et à la vue de tous, pour mieux les affirmer dans la vie de tous les jours. Tant chez les Hittites que chez nous, la fête, loin d'être seulement un moment qui sort du quotidien, est un véritable voyage culturel, une errance de l'identité, dans ce qui fait de nous des êtres dotés d'une culture commune, mais aux nuances si uniques. C'est ainsi que s'achève ce 6e épisode des Antiquités orientales sur la civilisation hittite. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et j'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à l'équipe de Radio Campus Paris qui produit cette émission. Et n'hésitez pas à suivre aussi cette aventure sur Instagram, @les-antiquités-orientales, et sur Facebook en tapant les Antiquités orientales dans la barre de recherche. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, et comme on dit en hittite, à sous là.